l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Saint-Aventin, 94.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h à la pendule de Présence. Merci d'écouter les programmes de Radio Présence, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est l'heure du Présence Midi, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Dans quelques jours, vous le savez, autrement si vous ne le savez pas, c'est que vous vivez très très loin du monde. Le pape Léon XIV sera pèlerin à Lourdes, un moment fort pour le diocèse et pour le territoire lourdais. C'est l'occasion d'explorer, au moment où la crise écologique est si présente, le rapport entre écologie et spiritualité. Laudato si, c'est le maître mot de la chronique verte de Benoît Guillard dans quelques instants. Le coup de cœur en librairie, ce sera je vais le retrouver. En tout cas, ce sera le père Arnaud de Boissieu qui sera à l'honneur aujourd'hui. Il nous parlera de son livre Témoignage. Les informations régionales, ce sera aux alentours de 12h30. Et puis, nous serons en compagnie de Anne Deslois, voilà, qui nous parlera aujourd'hui de la mission des hospitaliers et hospitalières au sanctuaire de Lourdes. Son invitée sera, elle témoignera de sa mission hospitalière qu'elle exerce depuis plusieurs années. Et enfin, eh bien, nous aurons l'auteur qui écrit sur nos belles Pyrénées en compagnie de Catherine Albrecht. Mais en attendant, voici les titres des infos.
Fly 91 passe une commande historique de 40 ATR 72600 pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Il s'agit de la plus importante commande ferme enregistrée par ATR depuis près de 10 ans, ainsi que de la plus importante jamais passée par une compagnie aérienne régionale. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2032. À 4 jours de la décision du tribunal de commerce de Toulouse sur l'avenir de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence à Saint-Gaudens, le ministre de l'Industrie Sébastien Martin dit non à une nationalisation même temporaire de l'entreprise. Interrogé par nos confrères de France 2, je ne suis pas sûr que ça soit la solution la plus pertinente, a-t-il déclaré. Sébastien Martin répondait à la proposition de la région Occitanie. Carole Delga, appelant le président de la République, a décidé d'une nationalisation temporaire de Fibre Excellence. Le département du Gers ouvre une nouvelle antenne de santé pour renforcer l'accès aux soins à Puy-Casquier. La commune est privée de médecins généralistes depuis le 31 décembre 2025. Le premier médecin a débuté ses consultations ce 3 septembre à raison d'une journée par semaine. À l'automne, le recrutement de médecins supplémentaires pourrait venir compléter cette offre.
Merci à Éric Leclerc que nous allons retrouver dans une petite demi-heure pour développer tous ces titres. Voilà, j'ai retrouvé ma petite souris, d'où mes hésitations lorsque je vous ai proposé le programme. Un programme donc qui se terminera avec les auteurs pyrénéens. Aujourd'hui à l'honneur, François Mauriac. Ça y est, j'y suis arrivé.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
D'ici là, eh bien, nous débutons avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Et en l'occasion de cette rentrée, j'ai fait le choix de me rendre à Lourdes, puisque dans quelques jours, le pape Léon XIV sera pèlerin à Lourdes, les 26 et 27 septembre. Mais ça, je sais que vous le savez tous et que vous l'avez déjà noté. Et donc c'est un moment fort pour bien sûr notre territoire, Lourdes, puis notre diocèse. Et c'est aussi, me semble-t-il, une invitation à nous poser une question. Quel lien peut-on faire entre la foi, notre territoire de Lourdes et le soin de la terre? Et c'est précisément la question que vit aujourd'hui au quotidien la communauté des Sœurs de l'Assomption à Lourdes, puisque je suis à la maison ou au centre, je ne sais plus comment il faut l'appeler, centre Assomption ou maison de l'Assomption à Lourdes. Et nous allons à cette occasion ensemble explorer ce carrefour entre spiritualité et écologie. Alors chers auditeurs, bienvenue. Et bien sûr, bienvenue à vous deux, puisque je suis en présence de Damien Aviron-Violet, que vous avez déjà entendu dans le cadre de ma chronique sur d'autres témoignages, donc le responsable projet de ce beau centre de l'Assomption, et bien sûr Sœur Thérèse, bien connue sur la paroisse de Lourdes et bien connue sur Lourdes, qui sera la voix des Sœurs de l'Assomption, dont, je le rappelle, le centre Assomption est à Lourdes, avec un parc magnifique, un verger, un potager, et qui a pour mission, depuis quelque temps déjà, de prendre soin à la fois des personnes, mais aussi de la création. Damien, bonjour. Peut-être deux mots de présentation.
Bonjour à vous. Damien, donc, comme le disait Benoît, pilote du projet de transition depuis 2 ans, quasiment jour pour jour.
Alors Damien, cette première question, la venue du pape Léon XIV à Lourdes, dans ce sanctuaire, au moment où la crise écologique est si présente, puisque avec cette canicule et ces catastrophes que l'on voit tous les jours dans le monde entier, qu'est-ce que cela vous évoque?
Ben moi, ça me rappelle très simplement les mots qu'il avait eus il y a là aussi quasiment un an, jour pour jour, pour les 10 ans de Laudato Si à Rome, où clairement il a eu des paroles assez fortes que j'ai encore en mémoire. Il n'y a pas de place pour l'indifférence, il n'y a pas de place pour la résignation. Et puis une interpellation forte qu'il envoyait et qui va peut-être nous rappeler à cette occasion, pour chacune et chacun, quelle sera votre réponse? Voilà ce qui me vient et en tout cas cette interpellation moi, me rejoint encore et j'espère qu'encore une fois, comme tu le dis, après cet été si terrible, que voilà, nos contemporains se laisseront eux aussi touchés, interpellés pour poser peut-être un pas de plus.
Alors Damien, Laudato Si parle aussi d'une conversion écologique. Pour vous, est-ce que c'est d'abord un acte spirituel ou est-ce que c'est un acte concret de terrain?
Alors en ce qui me concerne, moi c'est un tout en tout cas, c'est une cohérence d'action que j'essaie aussi d'expérimenter moi à mon niveau, au niveau individuel, en famille et puis en tout cas à travers la chance et la grâce de la mission qui me porte aujourd'hui. Donc c'est vraiment essayer de, le fameux tout est lié, en tout cas de vivre en tout cas cette unité, cette cohérence qui est encore une fois source de joie. Voilà comment je rejoins ces deux éléments.
Merci Damien, je vais me tourner donc vers Sœur Thérèse, qui nous fait le plaisir d'être avec nous également. Chère Sœur Thérèse, ce centre Assomption, face à la grotte, avec un parc magnifique que je connais, un verger, un potager, comment ce lieu est-il en lui-même déjà une réponse à Laudato Si?
Ce lieu, nous l'avons reçu d'une longue chaîne de sœurs qui sont venues ici et qui ont choisi ce lieu du fait qu'il était face à la grotte, qu'il était dans les montagnes et qu'il portait à la prière avant que quiconque parle de Laudato Si. Il est évidemment un lieu qui nous éveille sans cesse, car nous sommes la maison Assomption. En référence avec ce que disait le pape François quand il nous demandait de prendre soin de la maison commune. La maison Assomption est part de cette maison commune. Et c'est sûr que la situation dans laquelle nous sommes, la situation géographique, est merveilleuse pour cela.
Alors, chère Sœur Thérèse, la venue du pape à Lourdes, qu'est-ce qu'effectivement pour vous les sœurs, ça réveille en vous maintenant?
Ça réveille d'abord la joie. Nous sommes une congrégation très internationale. Chaque fois qu'on touche de près la dimension internationale de l'Église, par la venue du pape Léon, après les nombreux voyages qu'il a déjà effectués, ça ouvre notre cœur, ça ouvre notre intelligence, et c'est ce que je souhaite pour tous ceux qui viendront très nombreux, d'après ce qu'on entend dire, à Lourdes et à Paris et à Metz. C'est une joie parce que nous aimons l'Église, parce que nous voulons être d'Église, quels que soient les défauts de l'Église, nous sommes un seul corps avec le Christ et il en est la tête. Et de revoir, enfin d'accueillir ici le pape Léon, c'est un éveil, une fois de plus, à la foi, à la joie, à l'espérance.
Alors, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans ce thème, chère sœur. Vous voyez passer des pèlerins toute l'année, hein, inévitablement. Vous les accueillez, soit pour des haltes spirituelles, pour de l'hébergement, de la restauration ou des retraites. Et je suppose que vous croisez souvent des gens qui sont quand même inquiets. Inquiets de la situation, inquiets sur l'avenir de la planète, inquiets pour leurs enfants, etc. Et j'ai envie de vous demander... qu'est-ce que vous leur dites ?
On les écoute d'abord. On les écoute longuement. Et on leur dit, directement ou indirectement, ce que le Christ répète sans cesse, « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Et en même temps, il dit « Réveillez-vous. » Et pourquoi vous manquez de foi à ce point-là ? Et pourquoi votre espérance s'atténue, s'attiédit, etc. ? Et le Christ dit « Mais n'ayez pas peur et agissez au lieu de pleurer sur le sort de la planète. Comprenez ce qui se passe et à votre mesure, humblement, mais tout ce qui est humble est extrêmement puissant. Il ne faut pas dire que l'humilité est synonyme d'impuissance, de rien du tout, etc. Ce que disait notre fondatrice, il faut agir entièrement dans notre petite sphère. Et c'est comme ça qu'on changera le monde. Alors on leur dit aussi des paroles d'espérance. Et personnellement, j'aime à dire, au lieu de pleurer sur ce qui nous arrive, essayez de voir un peu comme le Christ fait avec les béatitudes, heureux, vous qui prenez soin de la création, parce que, on verra quoi, heureux, vous qui savez vous émerveiller, parce que votre cœur va s'élargir, heureux, etc.
Alors j'ai envie de rebondir, chère sœur, avec Damien. Damien qui écoute, alors chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais grands yeux ouverts, il boit les paroles de sœur Thérèse. Et donc, cher Damien, bon, je vois bien que ça vous touche, mais sans doute ça vous inspire, ces paroles.
Oui, et en l'écoutant, en fait, j'ai sous les yeux une parole de Marie-Eugénie qui me venue, et je vais vous citer en tout cas, qui est, tiens, comme par hasard, celle du mois de septembre. Donc je la cite, Sainte Marie-Eugénie, 22 juin 1884. Dans l'ensemble merveilleux de la création, les détails sont si harmonieux que l'incrédule qui les étudie est obligé d'y reconnaître le doigt de Dieu. Voilà. Et en fait, c'est très spontanément ce qui m'est venu. Je l'ai découvert ce matin et pour moi, ça résonnait assez fortement avec ce que vient de dire Thérèse à mes côtés.
Alors en rentrant au Centre Assomption, j'ai vu un énorme panneau vert, magnifique, intitulé « Le Christ vert ». Alors, je suis curieux. Et peut-être que vous pouvez me dire un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et puis est-ce que nos auditeurs peuvent venir voir un petit peu ce qui se joue autour de ce panneau. Alors, puisque Sœur Thérèse veut intervenir en premier, je donne le micro à Sœur Thérèse.
Le Christ vert, bon, ça me fait sourire, parce qu'on a parlé pendant tout un temps du Christ rouge, en particulier en Amérique latine, où nous avons beaucoup de communautés. Alors, bon, il s'agit du Christ vert. Vert comme l'espérance. Mais je laisse la parole à Damien après avoir pris ce petit temps de blague.
Merci. Cet itinéraire méditatif, c'est comme ça qu'il s'intitule, est installé depuis ce jour et en lien complètement avec le mois de la création qui s'ouvre le 1er septembre et qui se clôturera le 4 octobre à la Saint-François d'Assise. Et c'est le fruit d'un partenariat, en tout cas d'une rencontre, comme souvent dans ce projet, avec le pôle mission du diocèse de Paris et qui porte autour du père Étienne Grenet une initiative, encore une fois, pour mêler justement les enjeux écologiques et spirituels. Et donc c'est le fruit en tout cas de leur travail, des paroles du père Étienne de Grenet et d'un autre père Mathieu qui a des talents de graveur et donc qui ont monté en tout cas un itinéraire méditatif qui est là encore une fois pour nous saisir, nous déplacer, nous interpeller avec 8 stations qui jalonnent depuis ce jour la galerie de la Maison Assomption et sur lequel nous vous invitons à venir en tout cas le parcourir avec encore une fois l'idée d'après d'avoir à chaque fois un temps de partage collectif sur ce que vous avez fait, ce que vous allez en faire, encore une fois de partager ensemble les fruits.
Alors donc c'est ouvert à tout public, hein, vous pouvez chers auditeurs venir rentrer dans ce grand hall qui vous accueille au Centre Assomption et simplement vous émerveiller devant ces huit stations. Et ça, ce sera tout le mois de septembre.
Que ça. Elle est installée pour le mois de septembre. Elle nous emmènera jusqu'à la fin de la saison et au pèlerinage des agriculteurs à la fin du mois de novembre. Donc nous l'avons pour 3 mois et nous avons la chance de la recevoir pour la première fois en France.
Alors chers auditeurs, pour les nombreux auditeurs que vous êtes qui iront voir le pape, si vous cherchez un moment pour prolonger la visite du pape, peut-être entre la messe le matin et donc le soir, ben, vous pouvez vous arrêter à l'Assomption par exemple et venir admirer cette belle exposition Christ Vert. Chère sœur Thérèse, vous voulez rajouter quelque chose?
Au sujet de l'exposition, ce qui est merveilleusement, il y a un dessin, un portrait, un fusain, une gravure, il y a une réflexion et puis on est renvoyé à la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il y a une harmonie entre ce qui est à voir, ce qui est à lire et ce qui est à prier. C'est pourquoi c'est un acte complet, c'est la prière.
Alors peut-être pour aller plus loin, parce que l'Assomption c'est une maison qui vit, qui bouge. Alors j'ai vu aussi, je le sais, qu'il y a aussi la préparation de journées portes ouvertes. Donc on peut peut-être aller dire 2 mots sur ces journées portes ouvertes, en donner la date et le sens. Et là je laisse la parole à Damien à nouveau.
Oui, complètement. Et elles s'inscrivent complètement, encore une fois, au sein de ce mois de la création. Elles viendront le conclure. Donc ça sera le week-end du 3 et 4 octobre. Les horaires vont être diffusés très rapidement, de manière précise. Donc une opportunité, encore une fois, de faire vivre le projet, de le révéler, encore une fois, plus largement, de le faire rayonner, encore une fois, sur Lourdes et alentours, auprès de publics, peut-être, qui ne nous connaissent même pas. Et encore une fois, voilà, être le lieu de rencontre pour écrire, encore une fois, la suite de notre projet.
Donc, chers auditeurs, écoutez, ce serait une occasion rare de découvrir ce lieu, de rencontrer aussi la communauté, de visiter le parc, le jardin et cette belle exposition Christ Vert, et peut-être de repartir avec quelques graines, au sens propre comme au sens figuré. En tout cas, vous pourrez prendre tous les renseignements auprès du Centre Assomption, bien évidemment. Merci à vous deux, merci Damien, merci sœur Thérèse pour cet échange. On sent bien qu'ici, prendre soin de la terre, prendre soin des liens, prendre soin de la terre, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. C'est le cœur aussi de ma chronique, la chronique verte, sur Radio Présence. Et donc, chers auditeurs, à très bientôt.
Et bien plus exactement à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez réentendre toutes ces émissions sur le site de la radio, radioprésence.com, chronique verte. Dans quelques instants, le coup de cœur en librairie avec Nicolas Darchegen, juste après Eddy Mitchell.
Ça commence comme dans un film noir, un jeune couple. Vive là, fiché et recherché. La vie les a changés en marginaux blessés, en cavale, changeant chaque soir. Super.
Eddie Mitchell qui nous chantait Rio Grande. Je vous propose de retrouver la coup de cœur en librairie.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Avec cette semaine Nicolas Dargegène.
Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un livre témoignage, Il prendra soin de moi, du père Arnaud de Boissieu, publié aux éditions de l'Emmanuel en janvier 2026. Le sous-titre du livre est Récit d'un cheminement spirituel après un abus sexuel. Tout est dit dans le sous-titre. Alors qu'il était adolescent, Arnaud de Boissieu est victime d'une agression sexuelle commise par un laïc en mission dans l'église, directeur d'une association caritative. Un bon chrétien connu et respecté. Arnaud de Boissieu est aujourd'hui prêtre de la mission de France. Il a 75 ans. Les faits se sont déroulés il y a plus de 50 ans. 50 ans, c'est justement l'âge qu'avait Arnaud de Boissieu lorsqu'il a pris réellement conscience de ce qu'il avait vécu. Cette blessure qu'il avait en lui est restée enfouie. La douleur est restée refoulée, elle n'était pas oubliée, elle était cachée dans une sorte de déni. Pendant des années, il a vécu avec cette chose en lui, cette chose, comme il le dit, innommée parce qu'innommable. Alors on peut se poser la question, pourquoi ce témoignage, pourquoi si longtemps après les faits ? Arnaud de Boissieu donne lui-même la réponse dans son livre. Deux raisons me poussent à effectuer ce travail d'écriture. La première, c'est qu'il n'est guère possible d'ouvrir un journal sans y lire d'informations sur des affaires d'abus. À chaque fois, ma douleur lancinante est remémorée et ravivée. Je lis les titres, guère plus. Le reste, le corps de l'article, non, je n'en ai pas le courage. Le plus souvent, je n'arrive pas, j'ai le sentiment de tout connaître, de savoir, de ne savoir que trop. J'ai surtout envie de hurler « assez, arrêtez ». Ensuite, curieusement, je ne sais pas évaluer la douleur du lointain passé de l'agression. Ce que je sais évaluer, c'est le mal que me font toujours les mots. Ceux de l'agresseur, rencontré 40 ans plus tard, demeurent une blessure vive. Et quand il me faut parler aujourd'hui, les mots m'arrachent la gueule, je ne m'y habitue pas. Alors Arnaud de Boissieu a décidé d'écrire. Écrire pour chercher des réponses à des questions vitales. Comment vivre avec une offense ? Le pardon est-il nécessaire ? Est-il possible ? À quel prix ? Pendant 35 ans, Arnaud a vécu avec ce souvenir enfoui en lui. Il n'a pas pu ni su en parler. Il écrit lui-même, pas de mots disponibles, une chose innommée, réelle cependant, jamais oubliée, ni refoulée, mais aucune douleur. Juste la vague impression d'une chose anormale, d'une bizarrerie passée dont il me faudrait un jour rendre compte. Un déni pendant plus de 30 ans, ni oubli, ni amnésie, ni refoulement. Et un jour, à 50 ans, les mots viennent. Il met de l'ordre dans sa vie et écrit un texte sur sa vie et conclut ce long texte par « Je dois à la vérité de signaler que lorsque j'étais adolescent, un homme a tenté de me faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Je ne pense pas avoir été traumatisé par cet événement furtif de ma jeunesse. » Et avec ces mots, justement, le sarcophage de béton se fissure. Il se rend compte qu'il a vécu une agression sexuelle. Il cherche la définition du mot « viol » et c'est clair pour lui, il a été violé. Après des mois d'hésitation, il rentre en contact avec une association d'aide aux personnes violées. Il arrive à mettre les mots, à en parler. Il va en parler à un ami de son âge qui fréquentait également cet homme lorsqu'il était jeune. Cet ami, Olivier, lui avoue avoir aussi été abusé. Il dépose une plainte, les faits ont 37 ans. Arnaud de Boissieu rencontre à 50 ans l'homme qui a abusé de lui. Il est accompagné de Olivier. J'ai, comme il le nomme dans son livre, écoute Arnaud qui lui dit « Si nous voulons te rencontrer aujourd'hui, ce n'est pas pour te dire quelque chose d'agréable, mais nous devons te le dire. Il y a 40 ans, tu nous as fait du mal, et ce mal porte un nom, cela s'appelle une agression sexuelle. » Et G lui répond, « Ah oui, peut-être, vous êtes venu pour me dire cela, je connais ma façon d'agir, je n'ai pas besoin que vous veniez me le dire, ce n'est pas volontaire, que voulez-vous ? Je suis né comme ça, je n'y peux rien. » Et le comble, il dit au père Arnaud, « Arnaud, je me faisais une si haute image du prêtre que tu es. « Ce soir, tu as terni cette image. Vous m'avez fait plus de mal que de bien. Oui, Arnaud, tu as terni l'image que je me faisais de toi. C'est malheureux, ça. Alors ce soir, je prierai pour toi, vraiment. » L'abuseur reste enfermé dans sa bonne conscience. Il semble intouché par le mot « agression ». Arnaud et Olivier voient qu'il n'y a rien à faire. Ils partent. Et maintenant, il faut vivre avec cette blessure. Il faut avancer. Arnaud de Boissieu dit avoir connu deux blessures. La première, l'acte lui-même. La seconde, la rencontre avec son agresseur qui peut se résumer à « ben oui et alors ». Le père Arnaud a connu quatre étapes, le déni, la révolte, l'abattement et l'acceptation. Il a réussi à avancer grâce à la lecture des psaumes. Il a trouvé dans les psaumes une force pour avancer, une force pour crier sa haine envers son agresseur, une force pour également savoir que le pardon appartient à Dieu. Il nous donne dans son livre quelques psaumes qui ont pu l'aider à trouver des réponses à ses questions. C'est un cheminement personnel qui nous livre là, ce n'est pas le cheminement de chacun. Chaque blessé, chaque personne abusée avance différemment avec sa blessure. C'est un témoignage sobre et à la fois puissant. Un témoignage qui rend hommage aux victimes, leur offrant un espace pour briser l'isolement et avancer vers la résilience. Il prendra soin de moi, récit d'un cheminement spirituel après un abus sexuel du père Arnaud de Boissieu, publié aux éditions d'Emmanuel en janvier 2026, et disponible à la librairie de la Grotte et dans toutes les librairies.
Nicolas Dargegène pour son coup de cœur en librairie en cette rentrée 2026. On continue en musique avant de retrouver les informations de la mi-journée.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Sur Présence, you will never know.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et voici les informations.
Bonjour, Fly 91 passe une commande historique de 40 ATR 72 600 pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Il s'agit de la plus importante commande ferme enregistrée par ATR depuis près de 10 ans, ainsi que de la plus importante jamais passée par une compagnie aérienne régionale. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2032. Restons dans le secteur de l'aéronautique. Selon une enquête de l'INSEE, en 2025, le chiffre d'affaires des entreprises de la filière aéronautique et spatiale implantée en Occitanie a augmenté de 8%. Il dépasse ainsi pour la première fois son point haut de 2019, avant le début de la crise sanitaire. Parallèlement à cette hausse d'activité, l'emploi progresse de 0,7%, soit un rythme comparable à l'année précédente. L'emploi aérospatial continue ainsi de soutenir l'emploi régional qui néanmoins serait tracte en 2025. La diminution des aides à l'alternance provoque un recul de ce type de contrat et de la part des jeunes dans la filière. À 4 jours de la décision du tribunal de commerce de Toulouse sur l'avenir de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence à Saint-Gaudens, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, dit non à une nationalisation, même temporaire, de l'entreprise. Interrogé par nos confrères de France 2, « Je ne suis pas sûr que ça soit la solution la plus pertinente », a-t-il déclaré. Sébastien Martin répondait à la proposition de la région Occitanie, Carole Delga appelant le président de la République à décider d'une nationalisation temporaire de Fibre Excellence. Le département du Gers ouvre une nouvelle antenne de santé pour renforcer l'accès aux soins à Puy-Casquet. La commune est privée de médecins généralistes depuis le 31 décembre 2025. Le premier médecin a débuté ses consultations ce 3 septembre à raison d'une journée par semaine. À l'automne, le recrutement de médecins supplémentaires pourrait venir compléter cette offre. Nomination de Laure Lebon en qualité de sous-préfète de Saint-Gaudens. Elle succède ainsi à Gilles Pellegrin, nommé sous-préfet d'Aurillac dans le département du Cantal. Laure Lebon, en sa qualité de sous-préfète de Saint-Gaudens, sera également mobilisée sur diverses thématiques départementales telles que notamment le déploiement du réseau France Service à l'échelle du territoire haut-garonnais. Le moulin à vent de Montèche, dans Tarn-et-Garonne, figure parmi les 100 sites départementaux retenus en 2026 dans le cadre de la mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du Patrimoine. Cette sélection permettra au projet de restauration de bénéficier d'un soutien financier issu de la 9e édition de l'offre de jeu Mission Patrimoine lancée ce 1er septembre. Ce dimanche, Figeac organise son forum des associations de 10h à 17h à l'espace François Mitterrand. Retrouvez les associations culturelles, artistiques, sportives, humanitaires et sociales de la ville de Figeac. Les enfants peuvent participer au jeu Le Rallye des Assos pour s'amuser, découvrir et essayer de remporter un lot.
Merci Eric Leclerc pour ces informations à suivre sur Radio Présence. Dans ce Présence Midi, la chronique solidaire de Anne Deslois. Elle sera en compagnie de Marie-Thérèse Mangin. Et enfin, l'auteur pyrénéen mis à l'honneur aujourd'hui par Catherine Albrecht, ce sera François Mauriac aux alentours de 12h51. Je vous laisse en compagnie de Sting avec Mélodie Gardot. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping this focus. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as da-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. Peace to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my life for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. We could be a little something.
could be a little something.
We could be a little something.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Solidairement Vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un engagement discret mais essentiel lors des pèlerinages à Lourdes, celui des hospitalières et des hospitaliers. Qui sont-ils? Que font-ils concrètement? Pourquoi donnent-ils de leur temps au service des personnes malades, âgées ou fragiles? Eh bien, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Thérèse Mangin. Marie-Thérèse, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes hospitalière à Lourdes depuis plusieurs années. Et avec vous, nous allons essayer de mieux connaître justement cette mission des hospitaliers, hospitalières. Et déjà, avant même de parler de la mission concrète de toutes ces personnes bénévoles, on va essayer de vous connaître un peu plus. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, Marie-Thérèse ?
Merci, Anne. Donc, j'ai commencé à être hospitalière en 1970 pendant mes études d'infirmière, car à cette époque-là, c'était considéré comme un temps de stage. Et il y avait des aumôniers dans les hôpitaux, et le aumônier de l'hôpital dans lequel j'exerçais gardait l'argent qui lui était donné quand il rendait des services à des familles. Il gardait cet argent et ça lui servait à payer le pèlerinage des élèves infirmières. Et c'est ainsi que de nombreuses élèves infirmières, à cette époque, sont venues comme hospitalières, ont découvert Lourdes, et pour un certain nombre, continuent toujours, donc de nombreuses années après, à venir, ont pris des responsabilités et continuent toujours ce service.
Et oui, parce que pour vous, en fait, ça remonte à 55 ans, pratiquement.
Exactement.
Et donc, même pendant le temps où vous étiez professionnellement dans la vie d'une infirmière ou monitrice infirmière, vous trouviez le temps quand même pour venir. J'ai précisé d'ailleurs, parce qu'on l'entend peut-être à votre accent, que vous êtes originaire du diocèse des Vosges, de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc, vous servez au sein de ce diocèse pour l'hospitalité depuis toutes ces années-là.
Exact. Enfin, je n'ai pas rempli, bien sûr, toutes les années, mais un grand nombre en tout cas. Donc, je suis revenue 7 ans plus tard, donc en 77 pour la première fois, et cette fois-là j'étais sur un poste d'infirmière au sein de l'hospitalité que j'ai tenu pendant 10-15 ans, et puis après je suis venue comme hospitalière parce que je venais avec des enfants, des neveux pour leur faire découvrir, donc je ne pouvais plus prendre bien sûr une responsabilité aussi contraignante qu'infirmière, donc mes neveux ont découvert Lourdes aussi. C'était possible, à certains moments, les dates correspondaient à mes possibilités de vacances. Pendant d'autres périodes, ça n'a pas été possible. Et maintenant que je suis retraitée, c'est possible.
Formidable. Alors, quand on entend le mot hospitalière, Marie-Thérèse, vous allez aider à nous faire comprendre ce que ça recouvre, parce qu'on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, ce que ça représente. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ?
Alors, nous sommes tous des bénévoles, des personnes de tous les âges, de toutes les formes de profession. Il y a également des mineurs, et les mineurs ont un programme à part, bien sûr, parce qu'il y a toutes les questions de responsabilité, évidemment, à respecter. Donc, les bénévoles, les hospitaliers, ce sont des personnes du diocèse qui s'engagent pour une semaine, donc ils font une inscription. Les inscriptions commencent au mois de mars-avril, et ils font leur inscription pour venir au pèlerinage diocésain, donc qui a lieu tous les ans en juillet pour notre diocèse.
En quoi consiste vraiment la mission d'hospitalier, hospitalière? Et puis si vous pouvez nous dire aussi un peu une journée type du pèlerinage.
Alors, les missions sont extrêmement variées. C'est pourquoi chacun trouve sa place selon ses compétences, selon ses possibilités physiques aussi. Donc voici donc le déroulement d'une journée. Nous commençons à 6h30 par un temps de rassemblement au transit, qui est aussi un temps de prière. Il y a donc un aumônier et chaque matin, nous commençons par un chant, par une prière, par le thème du pèlerinage aussi. Donc cette année, je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est l'Annonciation. Et puis, nous avons aussi un temps de méditation. Ensuite, nous avons toutes les consignes pour la journée. Et là, nous arrivons ainsi à 7 heures du matin. Nous nous rendons dans les chambres des malades, que nous appelons maintenant les pèlerins accompagnés. C'est la nouvelle dénomination. Donc, nous nous rendons dans les chambres pour aider les personnes, eh bien, aux soins quotidiens. Et nous faisons les lits, le ménage, comme on ferait à la maison. C'est l'heure du petit déjeuner. Et puis ensuite, nous avons des cérémonies. Donc, nous amenons les malades, soit à l'église Sainte-Bernadette, à la basilique souterraine, ou à d'autres endroits, pour des célébrations. Et puis, il y a les temps de repas. Donc, dans les missions des uns et des autres, eh bien, il y a des personnes qui sont là plutôt pour faire du ménage parce que ça leur convient mieux. D'autres, en particulier des hommes, placent les voitures. Les infirmières s'occupent des soins infirmiers. Il y a une équipe qui est responsable de la salle à manger et qui met la table et qui aide les malades à manger. Il y a un service lingerie qui assure aussi l'entretien du linge pour les personnes qui ont peu de choses pour une semaine. Oui. Les missions sont extrêmement variées.
Et on comprend que chacun, chacune sait exactement ce qu'il doit faire auprès de la personne qu'il doit accompagner ou les personnes qui l'accompagnent. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, de gestes concrets, mais on imagine bien que votre mission, elle ne se limite pas, alors mettons pour certains, à pousser un fauteuil, à accompagner un déplacement. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette présence auprès des pèlerins accompagnés, donc les personnes malades ou plus fragiles, quoi. Qu'est-ce que vous apprenez personnellement même de ces rencontres ?
Eh bien, déjà, c'est un temps d'amitié. Une amitié qui dure, puisque nous sommes plusieurs centaines venant du même diocèse, et donc nous nous revoyons dans le courant de l'année. Et donc c'est un lien d'amitié qui tisse vraiment tous les villages, toutes les paroisses du diocèse. Donc ça, c'est déjà énorme pour le bien-être, le bien-vivre dans notre propre diocèse.
Vraiment des liens fraternels qui sont créés entre vous tous.
Complètement, complètement. C'est aussi pour nous un temps d'arrêt, un temps où on a quitté nos activités professionnelles, familiales, les diverses aussi, où nous pouvons déposer au pied de la grotte vraiment tout ce qui nous préoccupe. Et nous portons les soucis les uns des autres. Des malades nous confient leurs soucis, des hospitaliers aussi, bien sûr. Nous avons aussi nos propres soucis. Nous déposons tout ça auprès de la Vierge. Pour moi, la grotte de Lourdes, c'est Marie au pied de la croix. Vraiment, tous les pèlerins qui viennent et qui déposent leurs souffrances, et Marie qui est là et qui porte la souffrance de tout le monde, de l'humanité. On sait qu'on est tous le corps du Christ. Donc, Marie au pied de la croix. C'est l'image que je donnerai de la grotte.
Alors, justement, Marie-Thérèse, dites-nous, qui peut devenir hospitalier ou hospitalière? Est-ce qu'il faut être soignant? Vous nous avez dit qu'il y a différentes missions qui sont confiées aux uns aux autres. Quelles sont finalement les qualités les plus importantes que vous développez pendant le pèlerinage, quoi?
La relation, l'entraide, la solidarité, voilà, c'est ce qui est le plus important. C'est ouvert absolument à toutes les personnes. Il faut par exemple écrire les cartes de certains malades. C'est possible pour bon nombre de personnes. Assurer les gardes de jour, de nuit. Assurer le service des piscines aussi, car nous participons au service des piscines. Il y a les personnes, comme on le disait, qui aident au repas. Là, toutes les compétences, tous les savoir-faire, mais que toute personne a chez elle, sont les bienvenues. Et chacun a son poste. Et puis nous avons plusieurs missions, plusieurs postes dans la journée.
Et avant qu'on commence l'émission, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'au cours de la messe ce matin qui avait été célébrée, le prêtre, célébrant justement, a rappelé des qualités particulières que vous deviez développer d'une certaine façon.
Oui, voilà, pendant ce temps de prière, donc du matin de 6h30, le prêtre nous a rappelé un texte spirituel dans lequel sont rappelées les qualités. La patience, la compréhension, être doux, être sage, voir le bien en chaque personne, au-delà des apparences, pour que tous ceux qui nous approchent puissent sentir la présence de Dieu en nous. Et c'est cela la mission, révéler le Christ. Et si les autres les sentent en nous parce que nous avons essayé d'être compréhensif, sage, etc. Mais voilà, c'est la mission.
Merci Marie-Thérèse. Est-ce que, avant de se quitter, vous pouvez nous partager un souvenir, une rencontre, quelque chose que vous avez vécu pendant votre pèlerinage et qui est bien là dans votre cœur?
Eh bien, c'est une personne qui a été missionnaire au Rwanda pendant de nombreuses années, qui est tombée malade, qui était complètement dépendante, aucun membre ne pouvait bouger, elle avait des douleurs. Et pourtant, elle venait chaque année au pèlerinage sur un brancard en très grande difficulté, toujours souriante, heureuse d'être là. Et c'était un magnifique témoignage d'acceptation. Je n'ai pas d'autres mots pour qualifier.
C'est émouvant.
Très belle rencontre.
Merci Marie-Thérèse. Merci beaucoup pour votre témoignage et aussi ce beau témoignage. On comprend bien que derrière les gestes du quotidien, il y a surtout une aventure humaine faite de disponibilité, de fraternité, de rencontres et qui est une véritable expérience spirituelle. Belle mission à vous, Marie-Thérèse. Au plaisir.
Merci Anne. Merci.
Et merci à Anne Deslois pour la découverte de ces beaux personnages qui œuvrent en faveur de tous. La semaine prochaine, rendez-vous donc aux alentours de 12h40. À suivre dans quelques instants, la chronique littéraire de Catherine Albrecht, juste après Donna Summer. Could It Be Magic, c'était Donna Summer sur Présence.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Des écrivains qui ont parcouru nos belles Pyrénées, il en existe, et c'est Catherine Albrecht qui nous propose de les découvrir au fur et à mesure des semaines qui passent. Aujourd'hui, elle s'est penchée sur François Mauriac.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec François Mauriac. François Mauriac est un écrivain français, académicien, prix Nobel de littérature en 1952. C'est dans le Luchon de la fin du 19e siècle, station thermale mondaine, où se donnaient rendez-vous les familles de la haute bourgeoisie provinciale, que se nouent les chevaux de son roman « Le nœud de vipère ». Il s'agit d'une confession épistolaire, sorte d'introspection qui recouvre 40 ans de sa vie, dans laquelle Louis exprime toute sa rancœur et sa haine vis-à-vis de son épouse, Isa, et de toute la famille qui n'attend plus que sa mort pour s'emparer de sa fortune amassée pendant sa brillante carrière d'avocat. Louis et Isa, la fille des fonds d'Audège, riche négociant bordelais, s'était rencontrée dans l'hôtel des allées d'Étigny où les deux familles, l'une possédante, l'autre enrichie par le commerce et les affaires, venaient en villégiature. J'étais à Luchon avec ma mère en août 83. L'hôtel Saccaron de ce temps-là était plein de meubles rembourrés de pouf, d'isards empaillés. Les tilleuls des allées d'Étigny, c'est toujours leur odeur que je sens, après tant d'années, quand les tilleuls fleurissent. Le trot menu des ânes, les sonnailles, les claquements de fouet m'éveillaient le matin. L'eau de la montagne ruisselait jusque dans les rues. Des petits marchands criaient les croissants et les pains au lait. Des guides passaient à cheval, je regardais partir les cavalcades. Tout le premier était habité par les fonds d'Audège, ils occupaient l'appartement du roi Léopold. Fallait-il qu'ils fussent dépensiers, ces gens-là, disait ma mère. Car cela ne les empêchait pas d'être toujours en retard quand il s'agissait de payer. Ils avaient loué les vastes terrains que nous possédions au doc pour entreposer des marchandises. Nous dînions à la table d'hôte, mais vous, les fonds d'Audège, près des fenêtres. Ta grand-mère obèse qui cachait un crâne chauve sous des dentelles noires ou tremblait du jet. Je croyais toujours qu'elle me souriait. Mais c'était la forme de ses yeux minuscules et la fente démesurée de sa bouche qui donnait cette illusion. Une religieuse la servait, figure bouffie, bilieuse, enveloppée de linges empesés. Ta mère, comme elle était belle, vêtue de noir, toujours en deuil de ses deux enfants perdus. Ce fut elle et non toi que d'abord j'admirais à la dérobée. La nudité de son cou, de ses bras, de ses mains me troublait. Elle ne portait aucun bijou. J'imaginais des défis stendhaliens et me donnais jusqu'au soir pour lui adresser la parole ou lui glisser une lettre. Pour toi, je te remarquais à peine. Je croyais que les jeunes filles ne m'intéressaient pas. Tu avais d'ailleurs cette insolence de ne jamais regarder les autres, qui était une façon de les supprimer. Un jour, comme je revenais du casino, je surpris ma mère en conversation avec Madame Fondaudège. Obséquieuse, trop aimable, comme quelqu'un qui désespère de s'abaisser au niveau de son interlocuteur. Au contraire, maman parlait fort. C'était un locataire qu'elle tenait entre ses pattes et les fonds d'Audège n'étaient rien de plus à ses yeux que des payeurs négligents. Paysanne terrienne, elle se méfiait du négoce et de ses fragiles fortunes sans cesse menacées. À travers les mots, les regards, inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de François Mauriac. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées, inspirant tous mes récits ».
Merci Catherine Albrecht pour cette chronique que nous retrouverons dès vendredi prochain aux alentours de 12h50. On se quitte en musique en vous souhaitant un bon week-end, une très très belle journée, un bon appétit si vous êtes à table, et puis n'oubliez pas le rendez-vous de la prière à 15h30 avec la diffusion directe de la grotte de Lourdes, la méditation du chapelet. Très belle journée à tous. You give me God. Now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A. My life was strong like a wind blows sand, and the rock was firm when you hit my hand. Oh, Sunny, what's so true? I really love you.
Le journal.
Israël libère 5 détenus libanais et syriens capturés ces 3 dernières années. Des libérations liées au